je vais vous demander tout simplement de vous présenter, si vous voulez bien.
Donc Annie Le Houyrou, je suis actuellement sénatrice des Côtes d'Armor, mais j'ai été maire de cette belle ville de Guingamp et auparavant présidente de la communauté de communes de Guingamp à l'époque, donc dans un bâtiment qui jouxte aussi la prison.
Et donc le patrimoine de Guingamp est un patrimoine très particulier.
Alors le patrimoine de Guingamp est très très riche et quand j'ai été maire donc en 2008, on était aussi dans une logique de travail sur le développement durable. Je me souviens bien, à l'époque c'était le mot qui était à la mode. On avait fait un classeur rouge avec le recensement de tout le patrimoine de Guingamp parce que ça commençait aussi par là avant de pouvoir, enfin on avait déjà quelques idées quand même, mais de le faire formellement c'était important. Le patrimoine de la ville est très riche, mais aussi très divers. Il était en très mauvais état parce que voilà, l'histoire avait fait que financièrement, je pense que c'était difficile de réhabiliter et pourtant beaucoup de bâtiments voilà, étaient en très mauvais état, que ce soit le château, les remparts, le château de Pierre II, mais aussi le château dit des Salles. Et puis, évidemment, la prison.
Et donc, quand vous êtes devenue élue, conseillère, puis maire, ce dossier était un dossier finalement un peu chaud.
C'était un dossier qui n'était pas forcément chaud au départ, mais lorsqu'on l'a mis sur la table et lorsqu'on a fait le choix de porter le focus et une priorité sur ce bâtiment qui avait subi un incendie, qu'il fallait mettre hors d'eau et hors d'air, et lui donner une vocation, effectivement, les choses devenaient un petit peu plus compliquées du point de vue de notre opposition municipale. Donc, dans ce sens, ça a été chaud. Mais si vous voulez parler de chaud, je me remémore aussi que ça a été très très chaud, puisque un des éléments qui faisait que cette prison était encore en plus mauvais état, en tous les cas sur l'aile plutôt nord, c'est qu'elle avait subi un incendie et que suite à cet incendie, eh bien, il fallait impérativement intervenir sur le bâtiment au risque de le voir disparaître.
Et donc les freins, en tout cas les oppositions, elles étaient financières principalement ?
Je pense que les oppositions n'étaient pas seulement financières, elles étaient aussi, je dirais, culturelles et de choix politiques. Alors, lorsque on a fait l'inventaire du patrimoine de Guingamp, il y avait le château de Pierre II, le château des Salles, comme je le disais tout à l'heure, et la prison. Je pense que dans l'imaginaire de certains d'entre nous, peut-être que la réhabilitation d'une prison ne portait pas à attention toute particulière. Et puis le fait aussi, dans notre projet, quand on y a travaillé, c'était la volonté, enfin moi je l'ai toujours dit, le patrimoine c'est important, c'est essentiel de le réhabiliter, mais il faut aussi le placer dans une perspective et avec un avenir. Et c'est vrai que nous n'avions pas de projet finalisé et ficelé autour de ce haut lieu de Guingamp. On avait eu l'idée d'y faire un lieu de culture assez vite, en fait. On avait pensé à une bibliothèque, mais ça, c'était avant, dans nos esprits. Une bibliothèque avait été construite, une médiathèque avait été construite sur le centre-ville dans une architecture toute nouvelle. Mais bon, c'était aussi un lieu, la prison, où on se disait que c'était un moment de répit et d'ouverture au travers du livre qui pouvait trouver sa place dans ce lieu. L'idée était aussi de le faire vivre, pourquoi pas, autour de la richesse associative de Guingamp. Une maison des associations qui vit. À ce moment-là, on travaillait beaucoup sur le patrimoine rural. Donc, on avait aussi émis l'idée, donc on était toujours dans la perspective de trouver un usage, de faire venir des gens, que ce soit un lieu de vie après avoir été celui d'une prison, d'être aussi pour Donc consciente que ce soit que c'était vraiment un lieu de patrimoine exceptionnel, parce qu'en fait le château de Pierre II, le château des Salles, en fait il y a des châteaux de ce type-là ailleurs en Bretagne et en France. La prison c'était exceptionnel. Donc pour moi c'était vraiment un bijou qu'il fallait réhabiliter et au-delà de la réhabilitation lui donner aussi cette vocation. Donc on s'était dit Guingamp, le centre d'un territoire du pays de Guingamp, ça pouvait être un lieu de centralisation mais aussi après d'évocation de l'ensemble du patrimoine du pays de Guingamp. Donc on avait commencé à travailler sur le pays d'art et d'histoire à l'époque. C'était très d'actualité en fait comme sujet. Et ben, on se disait que la prison était peut-être aussi ce lieu où l'interprétation du patrimoine, un centre d'interprétation du patrimoine du pays de Guingamp pouvait aussi trouver sa place. Donc on a un petit peu tâtonné, on a fait confiance en fait en se disant que les projets viendraient, que notre objectif c'était de préserver ce patrimoine, de le garder dans son jus. Enfin, je le dis comme ça parce que je pense que c'était aussi un objectif fort qu'on a fixé aux architectes et à tous ceux qui ont pu travailler sur le sujet, c'est de lui garder son âme de prison, son architecture bien sûr, mais aussi qu'on puisse y trouver un peu l'esprit de réhabilitation, d'ouverture qu'impose le lieu, même si c'est une prison. C'était une nouvelle forme aussi d'espoir dans, je dirais, la réalité humaine. Et voilà, je crois qu'on a bien fait, puisqu'aujourd'hui, l'INSEAC, qui est un centre d'art visuel, s'y installe. Et c'est forcément un magnifique projet qui prend aussi toute sa dimension aujourd'hui. Alors, entre la décision de réhabilitation et les choix qui ont été faits aujourd'hui, enfin moi je suis très reconnaissant à Philippe Le Goff d'avoir repris ce projet qui n'était pas forcément facile et qui pouvait entre guillemets être abandonné d'une mandature à l'autre, puisque le choix avait été de phaser le projet, d'une part de le garder hors d'eau, ensuite de réhabiliter de manière la plus proche possible de ce qu'était la prison, tout en continuant à réfléchir à la vocation qui pouvait lui être donnée. Donc on pouvait arrêter le projet très rapidement. Moi, j'avais aussi confiance en une association qui était pas dans la place au départ, mais qui est venue et qui a fait le choix de Guingamp, c'était Gwyn's Egal. Je pensais que Gwyn's Egal était une association en qui on pouvait avoir complète conscience sur un vrai projet culturel d'ouverture sur les centres d'art visuel, donc qui était aussi quelque chose qui n'était pas représenté sur le département des Côtes d'Armor et qui pouvait apporter un plus à la culture et aux habitants des Côtes d'Armor et être attractif pour du point de vue touristique aussi, pour l'ensemble positionnement de Guingamp dans un ensemble plus large, breton, français et international. Et donc le centre Gwyn's Egal, je pense, avait toute sa place dans ce lieu, et je crois que ça aussi, ça faisait polémique, puisqu'on parlait tout à l'heure d'opposition au projet et bon, de position qu'il a fallu tenir et en combat d'autres, donc qui avaient certainement d'autres projets. Je pense que l'association Gwyn's Egal ne répondait pas. Certains avaient notre opposition, notamment avait une idée, je sais pas laquelle d'ailleurs, que cette association n'avait pas vocation à être, à se développer et à trouver des positions dans un bâtiment public de la ville de Guingamp. Mais je crois qu'on était quand même une majorité à croire aussi en cette association, en son ouverture sur le monde, en la qualité de ses projets, le carnet d'adresses aussi que cette association pouvait avoir au travers de la connaissance de grands photographes, enfin de relations qui pouvaient tout à fait avoir leur place à Guingamp et donner aussi une aura particulière et au lieu et à la ville, donc dans le paysage breton et national, voire international. Donc ce projet a été porté par la ville. On avait aussi dans l'idée, notamment avec l'idée du centre d'interprétation du patrimoine, de travailler plus largement avec la communauté de communes à l'époque et le pays de Guingamp, qui était des échelons de concertation locale. Et puis surtout, je crois que toujours, quand on a présenté le projet, les perspectives, même si les idées n'étaient pas très claires sur la vocation exacte qu'on allait donner à ce lieu, le département, aussi la région et surtout, je dirais, la DRAC, donc l'État, je crois que tout le monde a été au rendez-vous chaque fois que le projet a été présenté, chaque fois qu'on a fait entrer des personnes qui étaient en responsabilité, quelle que soit la responsabilité, quelle que soit l'institution et le niveau de collectivité. Je crois que chaque personne qui est entrée dans ce lieu en est tombée un peu amoureux et s'est dit on ne peut pas, il faut accompagner ce projet. Je ne connais pas de personne qui soit entrée dans ce lieu et qui ait dit non, ça ne nous intéresse pas. On a été accompagnés financièrement par l'État de manière assez considérable. La DRAC, toujours, hein, je crois, aujourd'hui, nous a toujours apporté un soutien fort. Je pense que mon prédécesseur, Noël Legrette, je crois qu'il faut aussi le nommer, il a toujours été au rendez-vous chaque fois qu'on avait besoin du petit coup de pouce qui pouvait aussi faire la différence pour convaincre et pour faire en sorte que les personnes aussi se déplacent pour viennent voir et pour venir voir et pour écouter. Je crois qu'une fois que les choses étaient faites, on était tout à fait en capacité de convaincre, mais vu de Paris, vu de Rennes, vu, je dirais pas de Saint-Brieuc, parce que là, je pense que c'était acquis, eh bien, Guingamp, avec un projet de ce type-là, la prison, sans vraiment connaître, c'était pas forcément toujours vendeur. Donc, d'autant qu'il y avait beaucoup de polémique locale sur le sujet, donc ça pouvait interroger. Mais chaque fois qu'on a pu convaincre pour venir voir sur place et présenter le projet, nous avons gagné la confiance des personnes qui nous ont toujours accompagnés, que ce soit financièrement, mais pas seulement. Je pense que derrière, c'est aussi du travail qui a été fait, un appui technique. Et je pense que la qualité de ce projet aujourd'hui, elle est aussi le résultat de toutes les intelligences en fait qui se sont retrouvées autour de ce projet. Parce que bon, la prison, c'est quelque chose de particulier. On l'a pas forcément vécu personnellement, individuellement. Donc il y a beaucoup d'imagination aussi autour de ce lieu et de lui trouver une vocation d'émancipation finalement, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant pour chacune des personnes qui a pu travailler sur ce projet. Je suis guingampaise de longue date, mais le souvenir de la prison, pour moi, c'est le haut mur impénétrable, en fait. Donc, le souvenir de la prison, c'est quelque chose d'infranchissable. Je suis née, j'ai fait mes études au lycée Pavie. Donc, quand on traversait la ville, bon, déjà, c'est un petit peu en retrait. Donc, le souvenir de la prison, c'est ce grand mur. Donc, le jour où on a la possibilité d'avoir la clé, d'ouvrir la clé, de rentrer par la porte principale de la prison, qui n'est pas la principale d'aujourd'hui, mais la porte originelle, de se retrouver encore entre deux grands murs, et ensuite en ouverture sur un espace qui est tout à fait particulier, parce que quand on rentre dans ce lieu, il y a un silence, on n'entend plus les voitures, on n'entend plus les bruits. Moi, je l'ai vu dans un état de délabrement, certes, pour les murs et la pierre, mais aussi d'herbes folles, de fleurs, de voilà, de on y a même mis des plantes mellifères après pendant un certain temps, mais c'est aussi la renaissance et la folie de toute la végétation qui peut prendre la place dans cet espace. Donc voilà ce que ça me révèle, et en me disant ce lieu, c'est vraiment un lieu exceptionnel et il faut le réhabiliter, mais surtout lui donner aussi une vocation pour que, au-delà des hauts murs qui sont très froids et qui représentent une fermeture, il faut ouvrir ce lieu au plus gros nombre, le faire connaître aux Guingampais, parce qu'en fait, peu de Guingampais le connaissaient. Les Guingampais, comme moi, avant, connaissions le haut mur, mais ne savaient pas vraiment ce qui s'y passait. Et du point de vue architectural, c'est aussi beau et intéressant. Et bon, après, quand on imagine tout ce qui a pu se passer dans ce lieu, les vies,
30 000 détenus.
Ouais. Non, c'est considérable. Donc chaque individu avait son histoire, chaque individu a eu son destin parfois heureux, mais souvent aussi malheureux. Donc c'était aussi le début de la fin. Donc pour d'autres, c'était aussi il y a eu quelques évasions, trois. Il n'y en a pas eu beaucoup vu les doubles murs qui étaient à remonter. Mais il y a eu aussi les réfugiés espagnols qui sont venus. Donc pour eux, c'était aussi de la Renaissance. Donc finalement, ce lieu, il est vraiment très particulier entre la fin de quelque chose, mais le début aussi d'autre chose, et c'est dans ce sens-là que on est vraiment très fiers d'avoir ce projet aujourd'hui qui va vivre aussi dans la transmission de quelque chose. Enfin, l'INSEAC, enfin, c'est vrai pour le Centre d'Art Gudégal déjà, quand du point de vue des expositions et de l'édition et de tous les travaux qu'ils peuvent mener. Mais l'INSEAC, c'est aussi l'apothéose, parce que c'est vraiment la transmission de l'art et de la culture, de tout ce qui fait finalement notre vie. Je me souviens aussi avoir, je pense rencontré, mais en tous les cas eu des échanges avec Marie-Suzanne de Ponto, qui était architecte en chef des monuments historiques. Elle a dressé les plans, elle travaillait pour la DRAC, et je me souviens avoir eu un échange avec elle, et je pense qu'elle est peut-être aussi à la source de cette reconnaissance finalement de ce lieu, d'une part par nous, parce que de cet échange est née aussi toute la dimension et architectural, mais aussi vécu de ce lieu qu'on ne pouvait pas laisser ainsi. Et puis elle a peut-être été aussi le socle à la DRAC. Je vous ai dit tout à l'heure que la DRAC nous avait toujours accompagnés, suivis et avait été convaincue de l'intérêt de la réhabilitation et du travail à réaliser sur ce lieu. Et ils ont été déterminants, parce que Guingamp-Ville n'aurait pas eu la force financière d'accompagner un projet comme ça. Et peut-être que Madame de Ponto avait, dans ses cahiers, laissé à la DRAC l'intérêt et le souhait de voir ce lieu retrouver une nouvelle existence. Donc moi, je dirais merci à Madame de Ponto aussi, parce qu'elle est restée quelque part dans ma mémoire. Si elle est restée dans la mienne, on peut penser qu'elle est restée aussi dans d'autres mémoires.